Les midis de culture. Marie Laborie.
Samedi soir, pour aller voir Léviathan, mise en scène par Lorraine de Sagazan, je suis passée devant le tribunal judiciaire de Paris, porte de Clichy. C'est un immense bâtiment qui domine totalement la capitale, imaginé par l'architecte star Renzo Piano. Il a ouvert ses portes en 2018. Il est très impressionnant, comme doit l'être le glaive de la justice sans doute. On y juge, entre autres, les comparutions immédiates, ces procédures rapides, voire expéditives, qui permettent de juger un prévenu dans la foulée de sa garde à vue pour des faits, je cite, « simples et établis ». Ce sont ces procédures qui sont au cœur de Léviathan et ce qu'elles produisent de douleur, de récidive et d'absurdité aussi. Lorraine de Sagazan est dans les midis aujourd'hui. Bonjour Lorraine de Sagazan.
Bonjour, merci de m'inviter.
Ben on est ravis de vous inviter, bienvenue dans les midis de culture. C'est vrai que c'est quand même une drôle d'expérience effectivement d'aller aux ateliers Berthier, là où vous jouez votre spectacle, où votre spectacle est mis en scène, qui est donc à vraiment deux pas collés au tribunal judiciaire, on passe devant pour venir. Et dans ce bâtiment, on le sait pas toujours, mais il y a 200 cellules qui sont au dépôt en fait. C'est là que c'est comme une petite maison d'arrêt, c'est là que les gens sont en garde à vue et montent ensuite dans les salles d'audience. Cette proximité, qu'est-ce qu'elle produit sur vos représentations aujourd'hui à Berthier?
Une forme de cohérence, bien sûr, mais c'est vrai que j'ai l'impression, en sortant du métro, de croiser sur les murs de l'intérieur du métro le personnage principal, puisqu'il y a ce symbole, dont il est question d'ailleurs au tout début du spectacle, dans le monologue de cet acteur amateur qui a une place très importante dans le spectacle, qui s'appelle Calaf Barrao, et il parle de cette figure de femme aux yeux bandés, avec un glaive, en effet, et cette balance, a priori, à l'équilibre. Et c'est vrai que de l'avoir en face des yeux tous les jours en montant l'escalator, c'est assez fascinant.
Alors, on est spectateur, quand on vient voir votre pièce, on assiste tout simplement au départ à une série de comparutions immédiates. Alors, il y a la présidente, il y a le procureur, il y a tout le décorum, j'ai envie de dire, de la justice, il y a les avocats, il y a les prévenus, quelquefois, pas toujours les parties civiles. Et puis surtout, il y a le temps. Et il y a un décompte qui est affiché. Alors, clairement, on ne peut pas y échapper. À peu près 20 minutes par comparution, d'où un rythme effréné qui va presque s'accélérant au cours de la pièce pour confiner à une sorte de délire quasiment à la fin. C'est ça, vous voulez nous faire ressentir l'urgence, l'abattage qui est à l'œuvre dans ces comparutions?
En tout cas, je pense qu'une œuvre d'art, pour moi, enfin, c'est une expérience d'abord, une expérience sensible. Donc moi, je travaille pas tant sur la représentation du réel que d'essayer de chercher du côté du contre-espace, du contre-temps, de trouver l'équivalent du réel. Et je pense que c'est plus une expérience qui doit faire appel presque au système nerveux qu'au tout rationnel. Donc c'est pas quelque chose, pour moi, le spectacle, c'est pas quelque chose qui se passe devant les yeux des spectateurs, c'est quelque chose qui devient devant les spectateurs qui, à mon avis, doivent comme terminer, compléter, projeter dans le spectacle. Et ce que j'essaie d'organiser là, c'est en effet un face-à-face, comme si finalement on regardait le spectacle qui nous regarde. Ça, pour moi, c'est très important. Maintenant, l'expérience du temps, c'est celle de la comparution immédiate. C'est ce qui est extrêmement inquiétant, d'ailleurs, c'est-à-dire cette procédure judiciaire qui, en quelques minutes, va juger des présumés innocents. Vous parliez là des cellules, des geôles. Donc, ce sont quand même des personnes en attente d'un verdict, d'un jugement même, qui donc, en comparution immédiate, ne font face qu'à l'accusation, arrivent d'ailleurs menottés, après une garde à vue, ils arrivent dans quelque chose qui ressemble déjà à un box.
Ils arrivent sales, ils arrivent fatigués. Sales.
On connaît les conditions de garde à vue qui peuvent durer, pour certaines, jusqu'à 96 heures. Donc, c'est des gens qui sont interpellés, souvent dans des situations de grande violence et qui, après, sont extrêmement maltraités. Moi, j'ai discuté avec de nombreux anciens détenus, de la comparution immédiate et qui me parle justement des geôles précédant leur procédure qui sont parfois pires que les conditions de détention après. C'est-à-dire il faut imaginer 8-9 mètres carrés, 4 personnes dedans avec un trou pour pouvoir faire ses besoins, pas possible de dormir, manger pas correctement. Donc en fait, c'est quasiment impossible d'arriver dans des conditions adéquates pour pouvoir être jugé. Et souvent d'ailleurs, ils ne connaissent pas les circonstances, les conditions de la comparution immédiate. Et en effet, la comparution immédiate dure quelques minutes, 20 en moyenne. À Marseille, il y a eu des records là récemment, je crois, qui ont été enregistrés de 6 minutes. Et donc ça pose la question aussi de cette institution judiciaire qu'on a parfois, qu'on a envie de romantiser, idéalisée, en fait, puisque tout le monde est à peu près d'accord sur l'idée même de la justice qui pourrait être vertueuse et sur la manière dont elle est rendue dans un pays comme la France, chantre des droits de l'homme et du citoyen. Comment juger, comment instruire, comment prendre connaissance du dossier en quelques minutes et est-ce à voir avec l'idée de la justice? Sommes-nous à l'aise avec ce qui se passe dans ces tribunaux et ces chambres d'audience?
Alors justement, ces audiences, vous le rappelez très tôt, par la voix de ce comédien que vous faites monter sur scène, comédien amateur, qui a lui-même eu affaire à l'institution judiciaire à de nombreuses reprises, qui explique très vite que les audiences sont publiques, mais que les salles sont vides. Alors, il fait un peu d'humour en disant peut-être que le spectacle est mauvais, mais c'est quand même frappant cette idée-là. Et donc, nous les montrer, c'est nous amener de force quelque part à venir voir ce qui se passe vraiment.
Oui, absolument. Je pense aussi que c'est vraiment l'idée de ramener une dimension collective dans la justice, c'est-à-dire c'est une institution qui fonctionne par l'idée de la responsabilité individuelle, c'est-à-dire on choisit qui on va punir. Donc c'est comme si c'était complètement désocialisé, cette institution, c'est-à-dire c'est comme si le monde social n'existait pas. C'est comme si on considérait que les ratés, ceux qu'on considère comme les ratés de la sociabilisation n'avait rien à voir avec leurs conditions de sociabilisation. Donc c'est une manière aussi de se décharger de la responsabilité collective, en réalité, de la manière dont la justice est organisée. Or, on voit bien le rapport très prégnant entre les inégalités sociales et la commission d'infractions, de délits, et on voit bien, en comparution immédiate, qu'il s'agit quand même d'une justice de classe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de CSP+, en comparution immédiate. Donc en fait, on fait quand même face à des gens qui sont extrêmement précaires, des hommes majoritairement, qui souvent n'ont pas de papier, n'ont pas de travail, n'ont pas de famille, qui, s'ils refusent la comparution immédiate dans l'instant, vont être placés souvent en détention provisoire pour attendre un jugement qui pourra bénéficier d'une plus grande préparation, mais donc vont être incarcérés pendant ce temps-là. Donc on a vraiment une justice qui reproduit en réalité des rapports de force, des rapports inégalitaires, et je crois que cette chose-là, en effet, c'était très important en fait de la collectiviser, c'est-à-dire en fait de permettre aussi de prendre en compte ce que j'ai vécu moi probablement en allant en comparution immédiate la première fois. Je me suis effondrée, j'ai eu honte, je me suis dit mais c'était impossible que la justice puisse fonctionner comme ça dans mon pays, quoi. J'avais comme un regard désincarnant sur la justice de mon propre pays, et donc je pense que j'ai voulu en effet partager cette expérience et par ailleurs continuer aussi à proposer aux gens d'aller en comparution immédiate parce que nous sommes quand même les garants de la bonne tenue de la justice dans notre pays en fait. Et si on ne la connaît pas, eh bien on continue à la romantiser et à ne pas savoir que la justice peut être injuste tout simplement.
Alors on devine à demi-mot, Lorraine de Sagazan, que vous avez énormément travaillé par des rencontres. Bon, c'est déjà ce que vous faites depuis un bon moment quand même, aller à la rencontre des gens pour créer vos spectacles. Là, comment vous avez fait? Vous avez vu des avocats, vous êtes passé plutôt par la rencontre que par la documentation, c'était les deux?
Les deux.
Ouais.
Les deux, c'est vrai qu'on a un protocole de travail avec l'équipe et plus particulièrement avec Guillaume Poix qui est
l'auteur du texte,
absolument, voilà. Qui est un écrivain et un dramaturge formidable qui par ailleurs produit énormément de textes en répétition et là pendant tout le temps des répétitions, donc c'est aussi un protocole de travail très spécifique qu'on a cherché à organiser tous les deux depuis quelques années. Pendant le premier confinement, on a décidé de partir à la rencontre d'autant de gens que de jours gâchés par la crise. Donc dans les théâtres fermés, on est allé rencontrer des inconnus et on leur a posé la question suivante: comment la notion de réparation résonne-t-elle dans vos vies? Et les gens nous ont parlé majoritairement de deux sujets. L'un de ces sujets était la justice, ou comment l'institution judiciaire peine à générer un sentiment de justice chez la plupart des gens.
Mais je vous coupe vite fait, mais bien c'est des inconnus qui? Comment vous avez rassemblé ces gens-là?
Alors c'était souvent les publics du théâtre.
C'est donc, ça,
voilà. Pouvait aller d'étudiants, de lycéens, à des groupes sociaux, des spectateurs lambda, et puis un petit.
Et la justice était au cœur, quoi.
Absolument, ça a été un des sujets vraiment majoritaires. Soit les gens avaient fait l'expérience de la justice, soit avaient manqué justement de cette expérience-là, soit en avaient peur pour une raison ou pour une autre. Et puis finalement, en creusant avec Guillaume Poix et le reste de l'équipe, moi j'ai toujours pensé un peu naïvement que la justice cherchait la vérité. Or, d'une part, c'est pas forcément une question intéressante, ça je m'en suis rendu compte après, mais surtout, la justice cherche une vérité judiciaire. Donc c'est une narration à laquelle on peut opposer des contre-narrations. Et à partir de ce moment-là, moi, donc, je traversais une espèce de crise de fiction, je savais plus bien à quoi servait le théâtre. Je voulais plus demander à des acteurs et des actrices de faire semblant, de vivre telle ou telle situation délétère. Je trouvais ça presque un peu indécent. Et puis à l'heure, en plus, du documentaire, à l'heure d'Internet, j'avais l'impression qu'on avait accès à des modes de représentation d'énormément de choses. Donc je me suis dit, il faut que le théâtre puisse être le lieu d'autre chose. Et j'ai réalisé à la suite de ça que finalement, pour moi, la fiction, c'était pas forcément une fin en soi, mais un moyen pour répondre au réel. Donc ça a été ce travail, identifier les béances du système social, et donc là, en l'occurrence, de l'institution judiciaire, et voir comment la fiction, l'image, pouvait non pas le résoudre, non pas le représenter, mais quand même y répondre en créant un nouvel espace, une sorte d'hétérotopie, comme le conceptualisait Foucault dans les années 70.
Alors, on va continuer à voir ensemble comment, justement, le théâtre peut s'immiscer, rendre compte, apporter, éclaircir, élargir. On va continuer. On va d'abord donner la parole à quelqu'un que vous connaissez peut-être, Laurence Blisson, qui a été secrétaire générale du syndicat de la magistrature, et elle parle des comparutions immédiates pour expliquer un petit peu comment ça fonctionne. On l'écoute, on en reparle juste après.
Tout va trop vite dans la comparution immédiate. Le problème, c'est que cette justice rapide, expéditive même, elle va renforcer le choix de la prison, parce qu'il n'y aura pas le temps d'évoquer des alternatives, parce que la justice n'a pas le recul sur les faits, et ça veut dire qu'on va être souvent encore dans l'émotion. Il y a eu des études qui ont été faites et qui montrent que structurellement, il y aura plus de prison à l'issue de la comparution immédiate. On est sur des taux de 80% presque de peine de prison qui auront été prononcées en comparution immédiate. Et entre la comparution immédiate et un autre mode de jugement, une personne a 8 fois plus de chances d'aller en prison et d'avoir d'emprisonnement ferme. Il y a véritablement une sorte, finalement, de chaîne qui conduit dans la comparution immédiate, de la garde à vue, de la privation de liberté au commissariat, à la prison.
Lorraine de Sagazan, vous êtes très située dans ce spectacle. Vous affirmez, vous avez une position, vous êtes abolitionniste. Pour vous, les comparutions immédiates, ça doit s'arrêter. Et en quoi c'est le rôle du théâtre d'être à cet endroit-là, en tout cas de votre théâtre ?
Bah, pourtant, que je sois située personnellement, c'est une chose, mais je pense quand même que l'art, celui que je pratique là, le théâtre en l'occurrence, doit se situer par-delà le bien et le mal. Donc, ce que j'essaye quand même de produire dans le spectacle, c'est plus un abolitionniste. En effet, une idée de l'abolitionnisme, mais presque pour tenter de changer de paradigme, c'est-à-dire de faire plier l'évidence selon laquelle la logique, qui est quand même celle de l'exaltation de la punition, c'est-à-dire cette logique interpellation, jugement, punition, serait la seule logique possible. Donc c'est plutôt essayer d'ouvrir des voies de réflexion autres, par l'absurde aussi, c'est-à-dire en fait pour moi la comparution immédiate c'est pas tellement que c'est bien ou c'est mal, c'est que c'est absurde, ça ne fonctionne pas. L'extrait que vous venez de passer, enfin moi j'ai l'impression de constater que c'est bien pire que ça, je sais pas exactement de combien date cet extrait.
C'était en 2018, oui, je pense que les choses se sont pas améliorées effectivement et même
absolument, empirées. Absolument, puisque la comparution immédiate c'était normalement une procédure exceptionnelle qui s'est normalisée au fil du temps et qui tend à devenir la logique principale. Et les taux d'incarcération ferme sont plus importants encore. Moi, j'ai plutôt en tête le chiffre de 70% de prison ferme. Pour le reste, c'est aussi de la prison, mais avec des peines aménageables. Ça n'est pas nécessairement une libération. Donc, en effet, cette logique managériale, en fait, prise dans l'urgence, la rapidité qui, encore une fois, s'abat sur des personnes plus que sur d'autres, pose question. Moi, j'ai vraiment l'impression d'assister à un simulacre. Et la phrase, quand même, que j'ai le plus entendue de la part de professionnels, notamment de la justice ou de personnes qui ont traversé dans leur chair la comparution immédiate, c'est « il n'y a pas de justice dans un tribunal de comparution immédiate ». Donc, pourquoi est-ce que ça continue ? Donc, en effet, je pense que j'essaye de poser des questions, d'embarrasser, de gêner, de perturber, pour que cette chose dont on peut se désintéresser, dont on peut se décharger de la responsabilité, puisse revenir, d'une certaine manière, au centre des préoccupations. Je crois qu'il y a quelque chose de très grave aussi qui se passe en ce moment, c'est que le Sénat a voté une loi visant à réduire, à descendre l'accès à la comparution immédiate à 15 ans. Ouais. Donc des enfants pourraient être jugés dans ces circonstances extrêmement injustes. Et ça, c'est, je crois, très grave et c'est un sujet absolument dont il faut qu'on puisse s'emparer. Ouais.
Alors, que fait le théâtre? Comment convoquez-vous ces images-là? À la radio, c'est un peu compliqué, je vous l'avoue, Lorraine de Sagazin. On va écouter un extrait, on en parle.
L'audience reprend, vous pouvez vous asseoir. Donc allons-y, dossier suivant.
Bonjour madame la juge.
D'accord.
Je suis désolé de vous faire.
Oui, donc c'est vous,
madame la juge.
Monsieur, vous êtes né le 3 octobre 1995 à Paris 12e. Vous résidez au 65 avenue de la République.
République à Saint-Denis, oui, c'est ça.
Monsieur, vous êtes présenté devant le tribunal qui vous reproche d'avoir à Paris, le 18 mars 2022, en tout cas sur le territoire national, d'avoir conduit un véhicule à moteur pour la conduite. Monsieur, vous aurez la parole.
Pas de souci.
D'avoir donc conduit un véhicule à moteur pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. En l'espèce, une moto Yamaha Ténéré 700 World Rally. Et d'avoir à Paris, le 18 mars 2022, en tout cas sur le territoire national, d'avoir conduit sans casque un véhicule d'une puissance supérieure à 35 kW. En l'espèce, cette moto Yamaha Ténéré 700 World Relais. Monsieur, pour la suite des échanges que nous allons avoir, vous aurez la possibilité de vous taire, de répondre aux questions ou de faire des déclarations spontanées. Si vous ne souhaitez pas répondre à une question, monsieur, il y a monsieur, monsieur.
Voilà. Excusez-moi, j'étais encore en train d'écouter. on vient d'entendre Victoria Kennel, c'est ça, extraordinaire, hein, présidente du tribunal, et Philippe Fonseca-Nobre, qui est donc le prévenu, accusé donc d'avoir roulé sans casque et sans permis dans une allée privée. Cette langue-là qu'on entend, c'est la véritable langue du tribunal.
Oui, tout à fait. Alors, on a commencé par aller donc en équipe, en groupe, en comparution immédiate, de nombreuses fois, pendant de nombreuses semaines. En effet, je parlais tout à l'heure du fait qu'on élabore en fait un protocole de travail à partir de rencontres. Mais ensuite, il y a une documentation qui est très importante. Il y a quand même eu une immersion pendant près de 3 ans. Une documentation qui est à la fois théorique, philosophique, sociologique, mais aussi assistée à de nombreuses procédures. Et donc ça se fait en équipe. Ensuite, on a retranscrit les scènes auxquelles on avait assisté, puis on a demandé aux acteurs et aux actrices de les rejouer. Donc là, il y avait un petit côté, c'était dans une petite salle, un petit côté un peu de pardon avec ces délits flagrants, flagrant délit étant l'ancêtre de la comparution immédiate. Mais moi, je me suis posé la question assez rapidement de pourquoi reproduire le réel à l'identique, puisque nous pouvons assister aux comparutions immédiates et que c'est quelque chose de public. Donc moi, encore une fois, si c'est la reproduction d'un réel qui est accessible, je vois pas trop l'intérêt d'une représentation théâtrale. Et donc, on a commencé à réfléchir à une forme. Guillaume Poix a réécrit toutes les comparutions. Il en a écrit d'ailleurs beaucoup, beaucoup plus. Je pense qu'il y a eu 8 spectacles autres que celui-ci d'ailleurs, qui sont nés en répétition avant qu'on arrive là. On a répété vraiment très longtemps, pendant un an, de manière discontinue. Et à partir d'improvisations, d'allers-retours, de production d'écriture de Guillaume, de différentes intuitions qui ont été discutées, contestées pendant les répétitions. Et puis, on a tout réécrit. Mais ce qui existe sur scène, même si c'est réécrit, c'est vraisemblable. C'est-à-dire, tout existe et ça a été largement vu et surveillé, enfin, contrôlé, disons, aussi par des professionnels. Donc, on est vraiment dans l'exactitude, a priori, technique.
Il y a cette difficulté quand on veut faire advenir du théâtre tout en partant de faits réels et d'histoires qui peuvent être très très douloureuses. Mm-hmm. En tant que metteur en scène, vous avez une grande responsabilité aussi.
Oui, tout à fait. Bah, je pense que donc la documentation très longue, c'est la moindre des choses parce que il faut absolument être exact. Et puis moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup aussi. Enfin, grâce au théâtre, de pouvoir s'intéresser pendant très longtemps sur des sujets en fait d'une manière si exhaustive jusqu'à pouvoir en maîtriser des bribes, ça c'est passionnant et c'est passionnant de vivre ça aussi en équipe, de se concerner pour des sujets qu'on n'aurait pas forcément pu creuser autrement. Mais l'autre grande responsabilité quand on est artiste, c'est la question de la forme, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on propose comme expérience. Et ce spectacle-là, il a une dimension plastique très importante, tant par le décor que par les accessoires. Les acteurs et les actrices sont masqués.
Alors voilà, ces masques.
Ouais.
Qu'est-ce que c'est que ces masques? Ils sont tous masqués, il faut le dire, mais ils n'ont pas tous les mêmes masques, sauf un, qui est donc effectivement le coryphée qui nous explique et qui s'adresse à nous. Mm-hmm. Tous les autres sont masqués.
Absolument. C'est-à-dire tous les acteurs et les actrices professionnelles sont masqués. L'acteur amateur, lui, celui autour duquel est organisé un face-à-face, puisqu'il ne va cesser de regarder les spectateurs et les spectatrices pendant tout toute la durée du spectacle, lui n'est pas masqué. C'est-à-dire, on a son visage. Ce qui est quand même une chose aussi qui était un peu particulière, parce que quand on va en comparution immédiate, on oublie les visages. Ça, c'est extrêmement violent. On oublie les visages, on oublie les noms. D'une part, parce que les magistrats ne sont pas toujours en mesure de les prononcer correctement, puisqu'il y a cet abattage. Et puis aussi, quand même, un rapport qui pose la question de la prononciation de noms consonance étrangère, qui semble quand même très difficile dans un tribunal, sur lesquels les magistrats butent beaucoup, ce qui raconte aussi quelque chose de qui rend la justice et qui est jugé. Et on voit bien qu'il y a quand même déjà là une grande différence. Donc en effet, ces masques, c'est à la fois... en fait, chaque image du spectacle, je pense aussi à la scénographie qui représente à la fois un chapiteau, qui fait appel à une certaine idée de la justice foraine, mais aussi une cathédrale, mais aussi un organe. Est-ce qu'on est dans le ventre du Léviathan? Est-ce qu'on est dans le ventre d'une femme, d'une mère dont il sera question à un moment donné? Ces masques aussi qui viennent à la fois rendre compte de notre regard désincarnant de la justice, mais aussi donner une dimension mécanique de cette justice qui s'organise quoi qu'il arrive sur le plateau et on fait advenir des choses toutes plus... parfois grotesques ou gigantesques les unes que les autres, et pourtant la structure technique continue à s'abattre de la même manière. Enfin, on a l'impression que rien ne fait vaciller cette justice, qu'elle n'a plus le temps de réfléchir, elle n'a plus le temps de penser, elle n'a plus le temps de ressentir, et que donc elle n'a plus de rapport avec l'idée philosophique de la justice. Ces masques aussi viennent, pour ceux qui sont en tissu, qui représentent donc en fait les prévenus ont des masques en tissu sur le visage qui à la fois invisibilisent et à la fois donc comme annulent leur visage, les dépersonnalisent, et en même temps il y a des éléments du visage qui persistent comme une bouche, des sourcils. Et ça pour moi c'était comme la vie qui tente de persister malgré l'invisibilisation. Donc il y a la vie qui persiste malgré tout, comme si un cri de douleur était imprimé sur un visage qui avait tendance à être effacé.
Comment vous avez justement travaillé tous ces mouvements au plateau? C'est-à-dire on sent qu'il y a dû avoir un travail vraiment de plateau, d'improvisation, c'est assez clair. Comment chacun des personnages les acteurs, a pu s'emparer de son personnage qui est à la fois un archétype et une personne. Enfin, c'est très compliqué.
Oui. Bah, il faut déjà beaucoup de travail, un long travail. Et là, je pense évidemment à la situation extrêmement délétère, aux coupes budgétaires qui existent à l'intérieur de ce milieu en ce moment et qui sont absolument drastiques et catastrophiques, puisque je pense que des spectacles comme ça, où l'on cherche pendant longtemps, oui, où on s'empare d'un sujet que l'on est donc en capacité de maîtriser d'une manière théorique, mais aussi physique au plateau, de faire des tentatives de formes qui sortent des formats, peut-être des sentiers battus, en tout cas c'est la tentative, c'est-à-dire d'un formatage qui ne font pas appel tout à coup à une recette bien connue où on est rassuré parce qu'on reconnaît tout ce qu'on voit. Ben, malheureusement, si ça continue comme ça, ça ne pourra plus avoir lieu. Mmh. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc, c'est un long travail aussi de confiance, puisque je travaille avec une équipe qui est... Il y a un cœur qui est le même depuis toutes les représentations. Donc, en fait, maintenant, je peux m'autoriser à leur demander des choses qu'ils vont accepter, même si au départ, c'est pas complètement clair. Puis bon, faut dire aussi que je suis extrêmement bien entourée. J'ai une équipe assez extraordinaire, tant du côté technique que plus côté administratif ou les acteurs et les actrices. Et on travaille ensemble depuis des années, donc c'est vrai que je vois aussi les gens grandir, évoluer depuis très longtemps, et ça c'est assez formidable. Donc c'est, oui, beaucoup d'improvisation, beaucoup de documentation collectivement, beaucoup de dialogue, beaucoup, une tentative d'horizontalité aussi. Moi, ouais, je crois pas trop à la figure du demiurge qui viendrait avec son spectacle organisé de manière rationnelle. Je crois qu'au contraire, c'est... presque les répétitions, c'est essayer d'organiser les conditions d'un chaos, puisque je crois aussi que du chaos vient la création, et dans ce chaos, c'est comme si on malaxait la matière, on la malaxe dans tous les sens, et on fait advenir des accidents. Et c'est souvent dans les accidents, en répétition, que les voies les plus intéressantes se situent, et qu'il faut suivre en essayant de se faire confiance, parce qu'on aurait plutôt envie, pour se rassurer, d'aller dans du connu.
On va écouter un autre metteur en scène que vous connaissez bien. Vous avez travaillé avec lui quand vous étiez plus jeune, Lorraine de Sagazan. C'est Romeo Castellucci.
Quand on parle du corps, on parle toujours du corps du spectateur. C'est ça le corps qui est le plus intéressant. Parce que le plateau définitif est en lui. Le spectacle, ce n'est pas un objet à consommer. C'est une expérience. L'expérience, c'est évidemment celle du spectateur. C'est le spectateur qui a le devoir nouveau de combler le spectacle. Il s'agit d'une rencontre entre le plateau et la salle. Quelque chose se passe au milieu, pas sur le plateau. Le plateau, c'est relatif. Je veux dire, ça déclenche quelque chose. Et donc, le corps du spectateur, avec ses blessures, avec ses cicatrices, ses mémoires, son corps, son cœur, ça donne un sens, s'il y a, au spectacle. C'est pour ça qu'il y a différentes interprétations de la pièce. Et ça, c'est la bonne nouvelle, parce que ça appartient pas à moi. C'est pas un objet qui... Moi, ce n'est pas la vision de l'artiste. Moi, je ne crois pas à cette rhétorique.
Romeo Castellucci, c'était en 2022 sur France Culture. Il rejoint ce que vous disiez au début de l'émission, Lorraine de Sagazan, sur ce qui doit advenir entre les deux, entre la scène et le public. Et là, vous allez plus loin avec ce travail que vous faites sur Léviathan, c'est que vous organisez aussi toute une série de conférences avec des sociologues, avec des historiens, avec des philosophes. Voilà, quelque part, vous faites sortir encore le théâtre, encore plus de ses murs.
Oui, pour rebondir sur ce que je viens d'entendre aussi, il y a, avant de répondre à votre question, oui. Dans le spectacle, notamment à la fin du spectacle, un temps partagé. Je vais peut-être pas en dire trop, mais en tout cas, il y a véritablement une expérience de temps qui est proposée aux spectateurs et aux spectatrices. Et je vois bien aussi que cette sensation-là, cette traversée-là, elle diffère de notre proximité ou non avec l'idée de la justice, de la comparution immédiate. C'est-à-dire, en fait, cette sensation du temps, on ne va pas la vivre de la même manière en fonction de notre lien avec la justice ou pas. Et ça, c'est très intéressant. Je vois aussi que souvent, des gens me posent des questions en me disant « Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, exactement ?» Comme s'il fallait pouvoir tout saisir dans son intégralité et son immédiateté. Or, je pense qu'une œuvre qui peut se saisir dans son intégralité, dans son immédiateté, c'est une œuvre, a priori, un peu catastrophique. Je crois que c'est très important qu'il puisse y avoir un mystère, un interstice dans lequel on peut projeter pendant extrêmement longtemps. Et parfois, des gens me racontent des choses sur le spectacle que je n'avais pas pensé et qui sont beaucoup plus intéressantes que toutes les réflexions qu'on s'est faites. Donc, cette participation, cette co-création, elle est très très importante. En effet, vous le disiez, je change donc de sujet par rapport. Donc, on organise
il
en
nous
effet.
Il reste peu de temps, je vous le dis, mais c'est
très
pas
bien.
Grave.
Alors, je vais vite.
Ouais.
On organise un festival la semaine prochaine entre un festival, un temps fort autour de la justice. S'appelle Question de justice, c'est entre le 10 et le 17 mai. Et c'est l'occasion pour moi de ne pas faire de compromis artistique dans le spectacle, c'est-à-dire d'être vraiment dans une forme esthétique et à côté d'avoir un volet un peu plus militant, un peu plus théorique, avec en effet des conférences et des invités assez exceptionnels sur des questions de justice différentes chaque soir, mais aussi des performances devant le palais de justice et aussi des formations aux droits élémentaires. Donc une manière d'organiser une constellation et aussi un pont entre le palais de justice et le théâtre.
Eh bien, merci beaucoup, Lorraine de Sagazan, d'être venue nous parler de Léviathan. Léviathan, c'est jusqu'au 23 mai à Paris, au théâtre de l'Odéon, Atelier Berthier, donc Porte de Clichy. La tournée n'est pas finie. Vous partez en Lituanie, c'est ça. Et puis, il y aura d'autres dates pour la saison prochaine. Elles seront évidemment sur la page des Midis de Culture. Et nous, ça nous a donné envie d'écouter George Jones, There is no justice in this world anymore.
Oh, I told you if you walked out on me, we were through. And you told me that it couldn't matter less to you. You turned me down for someone who wouldn't turn a hand for you. There's no justice in this world anymore. Justice in this world anymore. Sometimes I ask myself, what am I living for? If wrong can triumph over right, if we are licked before we fight, there's no justice in this world anymore.
Les Midis de Culture, c'est fini pour aujourd'hui. Cette émission a été préparée par Zoé Coupé, Lise Ripoche, Tom Bundenstock, Boris Pinault, Oriane Delacroix, Aïssa Tundoy, Louis Cosnard, Zora Vignier. Elle est réalisée par Laurence Malonda avec Ludovic Augier à la technique.